RCF. RCF, le béaba du christianisme.
Bonjour à tous. Quels sont les principaux attributs des papes, du pallium à la férule en passant par l'anneau du pêcheur? Que symbolisent ces vêtements, ces objets? Que révèlent-ils sur l'histoire de l'Église, la personnalité des papes? Eh bien, on en parle cette semaine avec l'historien Bernard Berthaud. Il vient de rééditer avec Pierre Blanchard, Trésor inconnu du Vatican, cérémonial et liturgie. C'est aux éditions CLT.
Le béaba du christianisme, Pauline de Torsiac.
Bernard Berthaud, bonjour.
Bonjour.
Alors, Bernard Berthaud, chaque pape, à l'issue d'un conclave, apparaît à la loggia centrale, place Saint-Pierre, et il est vêtu des ornements spécifiques qui sont réservés justement au successeur de Pierre, la soutane blanche, la calotte blanche aujourd'hui. Est-ce que cela a toujours été le cas?
Pas tout à fait, comme on l'a vu pour le dernier conclave. Effectivement, le blanc est important, mais le blanc est indissociable du rouge. Et très tôt, 6, 7e siècle, le pape utilise ces deux couleurs, des vêtements de ces deux couleurs, le blanc parce que c'est simplement, et tout bêtement, l'alba romana, c'est-à-dire le vêtement que tout le clergé porte à Rome et autour de Rome. C'est un vêtement de lin blanc qui ensuite sera un vêtement peut-être un peu plus précieux, mais le blanc. Et sur ce vêtement blanc, il porte un manteau rouge, une chlamyde rouge, et qui est là, est significatif du pouvoir impérial. C'est-à-dire que le pape du 5e siècle, 6e siècle, va partager avec l'empereur le pouvoir impérial. C'est un empereur spirituel, en quelque sorte. Et donc, tout au long du Moyen-Âge, et jusqu'à Benoît XVI, les papes ont porté ces deux couleurs, indissociablement. Les souliers rouges aussi, parce que les souliers rouges étaient les privilèges de l'empereur également, signe de son pouvoir sur la terre, et le grand manteau rouge.
Ces couleurs indissociables, mais aujourd'hui, le pape François, par exemple, ne porte plus les mules rouges. Le manteau non plus.
Non plus, parce qu'il a voulu simplifier les choses.
Ça dépend un peu des personnalités des papes également.
Bien entendu, ça dépend tout à fait de sa personnalité. Il ne voulait pas avoir trop d'éléments. Peut-être qu'on ne lui a pas expliqué l'importance du rouge. C'est possible, je n'en sais rien. Toujours est-il que l'image presque bimillénaire du pape, c'est le blanc et le rouge.
Alors on va passer à un autre attribut spécifique des papes, l'anneau du pêcheur. Cette bague portée par les papes, qu'est-ce que l'on retrouve dessus et que signifie cet anneau?
Alors l'anneau du pêcheur, c'est plus tardif, c'est médiéval, on commence à en parler autour du 10e, 11e siècle. C'est un anneau que tous les hommes puissants utilisent, ou même les femmes puissantes, parce qu'on trouve des anneaux sigillaires aussi pour les femmes, et qui permet de sceller un document, de mettre son de montrer que c'est la personne même qui a établi ce document. Et donc c'est pour ça qu'on dit sous l'anneau du pêcheur, quand on voit un document romain, si vous voulez, encore aujourd'hui d'ailleurs, sous l'anneau du pêcheur près Saint-Pierre. Et donc cet anneau du pêcheur, évidemment, d'abord porte une image de Pierre jetant son filet. Ça, on trouve cela dès la fin du XIIIe siècle, cette image-là. Et puis, la coutume s'établit, lorsque le pape est élu, on lui passe au doigt cet anneau qui signifie son pouvoir législatif. Et cet anneau, évidemment, comme c'est un anneau de pouvoir législatif, eh bien, on va le briser ou le refondre à la mort du pontife.
Ouais, sa renonciation aussi, pour Benoît XVI qui a renoncé. Benoît
XVI, si vous regardez les photos, il porte toujours l'anneau du pêcheur.
Il porte toujours l'anneau du pêcheur.
Oui, bon. Oui, mais son successeur ne le porte pas, donc... Bon, bref, l'histoire est un peu troublée, si vous voulez, ces dernières 20 dernières années, parce que justement, les choses ne se passent pas comme elles devraient historiquement.
Donc ça scelle en tout cas le fait que le pape est le successeur de Pierre. C'est vraiment le sens de cet anneau du pêcheur.
Et qu'il établit des documents parce qu'il est successeur de Pierre. Et qu'il les fait près Saint-Pierre, c'est-à-dire là où est enterré Ad limina apostolorum, là où est enterré le premier. C'est ça qui est très important.
C'est ça qui est très important. Il y a le pallium aussi. Alors, Bernard Berthaud, ce collier en laine.
De laine. Alors le pallium aussi, c'est très intéressant. Parce que là, on touche vraiment la liturgie romaine. Le pallium, au départ, c'est une pièce d'étoffe que l'on roulait comme un foulard que l'on roulait autour de l'épaule. Mais cette pièce d'étoffe était particulière parce qu'elle avait reposé sur la tombe de Pierre. Et pour l'homme médiéval, dès le 5e siècle, l'homme de cette époque-là, un objet qui repose sur la tombe d'un saint devient relique. Et le pape s'est mis à distribuer cette écharpe à des évêques importants de la chrétienté. L'évêque d'Arles, Césaire, va recevoir du pape un pallium.
Alors justement, le pallium n'est pas spécifique au pape. Qu'est-ce qui le différencie des autres?
Il n'est pas spécifique au pape, du tout, mais c'est le pape qui le distribue, si vous voulez. Et le pape le porte parce que à partir de la fin du 8e siècle, le pape, je crois que c'est Étienne II, va distribuer à un certain nombre d'évêques importants qu'on va se mettre à appeler archevêques, à l'image de Boniface d'Allemagne, va donner cette marque d'estime en quelque sorte et en même temps veut en faire le témoignage de la communion avec le siège apostolique. Je te donne cette relique de pierre que tu vas porter sur tes épaules parce que tu es en communion avec moi. Donc c'est extrêmement fort, hein. C'est plus qu'un symbole, c'est vraiment l'image même de l'accord entre un archevêque en Europe et l'évêque de Rome, si vous voulez. Et ça scelle cet accord-là, ça scelle cette communion à l'époque où c'était difficile d'avoir une pleine communion.
Alors, paraît-il que le pape, le 21 janvier, la Sainte Agnès bénit les agneaux dont la laine va servir à tisser justement ces palliums. Est-ce que c'est encore le cas?
Oui. Alors, c'est une légende, c'est pas une légende, c'est une tradition qui existe encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, le 21 janvier, pour la Sainte Agnès, des agneaux qui sont offerts par les cisterciens de l'abbaye de Trefontana sont bénis. On les pose sur l'autel. Il faut aller ce jour-là à Sainte Agnès. On les pose sur l'autel et l'abbé général des chanoines réguliers de Saint-Sauveur du Latran les bénit. Puis il les transporte au palais apostolique. Et là, le pape les bénit de nouveau et les confie à des religieuses qui vont les élever, qui vont les tondre et qui vont réaliser les
récupérer
palliums.
La laine pour réaliser les palliums.
Voilà. Donc c'est quelque chose de très beau. Et ensuite, les palliums réalisés sont apportés à Saint-Pierre. Il y a un chanoine à Saint-Pierre, qu'on appelle le chanoine altariste, celui qui s'occupe de l'autel, qui va les poser sur la tombe de Pierre.
RCF, le béaba du christianisme.
Et dans le béaba du christianisme, on s'intéresse cette semaine aux principaux attributs des papes. On a vu les vêtements blancs, rouges, la soutane blanche, la calotte blanche que portent aujourd'hui les papes, l'anneau du pêcheur, le pallium. Parlons de la férule papale, Bernard Berthaud, ce bâton liturgique, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il signifie pour les papes?
Alors la férule papale, il y a 50 ans, on ne la voyait pratiquement pas. C'est un bâton qu'il ne faut pas prendre pour un bâton pastoral. Au départ, c'est un bâton de pouvoir, c'est le signe, un peu comme le rouge, c'est le signe du pouvoir temporel du pape, c'est le bâton de l'empereur en quelque sorte. Et le pape le portait au Moyen-Âge et jusque sous Jean XXIII, le portait pour les très grands événements, c'est-à-dire lorsqu'il ouvrait les portes saintes. Et lorsqu'il présidait un concile qui rassemblait en principe tous les évêques de la chrétienté, que ça soit
pour des temps forts de l'Église,
donc des temps très forts de l'Église, et ce qui a fait d'ailleurs Jean XXIII, qui était, comme vous le savez, extrêmement liturgiste. Donc Jean XXIII prend une férule, la férule de Pie IX d'ailleurs, pour ouvrir le concile Vatican II, férule que Pie IX avait prise pour ouvrir le concile Vatican I. Donc c'est assez intéressant. Et Paul VI succède à Jean XXIII, et bien entendu succède à la tête du concile également, et va utiliser une férule, et puis Paul VI aime les choses plus contemporaines, et entre autres les travaux d'un orfèvre et d'un sculpteur qui s'appelle Lelio Scorzelli, et donc il demande à Lelio Scorzelli de lui faire une férule plus adaptée. Et cette férule lui plaît tellement qu'il l'utilise pratiquement tout le temps.
À chaque fois.
Et le pape vieillissant, d'ailleurs, va utiliser cette férule pour tous les événements un peu importants. Enfin, même pour les...
Il va s'appuyer sur sa férule.
Et ça va être ensuite repris par Jean-Paul II
c'est
et ainsi de suite, si vous voulez.
Voilà, un bâton liturgique, un signe de la personnalité des papes,
tout à fait. Alors là, absolument, parce qu'on voit, si on s'amuse à regarder les photographies, on voit que Jean-Paul Paul II va utiliser une férule faite pour lui d'ailleurs, mais du même style et par le même orfèvre que pour Paul VI. Et puis Benoît XVI qui va réutiliser la férule de Pie IX et puis qui va recevoir en cadeau de ce qui reste de la noblesse romaine une férule plus dans ses goûts, on va dire. Et puis on voit aujourd'hui le pape François qui n'a pas abandonné la férule et qui l'aide d'ailleurs à marcher si on regarde bien les images, et qui est une férule beaucoup plus simple, souvent en bois, là aussi qui est le fruit de dons d'artistes ou autres qui veulent offrir quelque chose au pape.
On va terminer avec ces objets que les papes ne portent plus, mais qui sont malgré tout emblématiques de la fonction, la tiare, cette coiffe de trois couronnes.
Voilà, alors oui, tout à fait. Alors la tiare, qui est toujours l'emblème de la papauté, parce que quand on va à Rome, on voit la tiare partout. En fait, c'est un bonnet au départ, au 11-12e siècle, là aussi, c'est un bonnet que le pape porte pour une sorte de casque, que le pape porte pour chevaucher, pour aller prendre possession de sa cathédrale du Latran, une fois qu'il a été sacré à Rome, à Saint-Pierre. Et petit à petit, ce bonnet s'enrichit, parce que le pape devient une puissance politique, donc il va mettre autour de ce casque une couronne, une première couronne, et puis il va arriver une deuxième couronne avec Boniface VIII, qui lui veut vraiment affirmer son autorité vis-à-vis d'un certain nombre de rois européens, dont Philippe le Bel, et puis son successeur, Clément VI, va ajouter une troisième couronne, et là va s'adapter toute une symbolique, père des rois, père des princes, père d'un peu, bref, et cela va devenir un emblème. Mais il faut bien noter que ce n'est pas un emblème liturgique. Le pape la portait pour venir de son palais, de ses appartements à Saint-Pierre, et lorsqu'il allait célébrer, il déposait la tiare pour mettre une mitre, pour mettre une mitre d'évêque.
C'était pour symboliser son pouvoir.
Absolument.
Politique. Donc aujourd'hui, les papes ne portent plus la tiare, mais la mitre, tout simplement.
Ne portent plus la tiare, mais cette tiare reste dans la symbolique et dans l'emblématique papale.
Bernard Berthaud, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces attributs des papes. Je rappelle que vous venez de rééditer avec Pierre Blanchard, Trésor inconnu du Vatican, cérémonial et liturgie. C'est aux éditions CLD. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr. À bientôt.